Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, très heureux de vous retrouver pour ce numéro consacré à Pierre Claverie, frère dominicain devenu évêque d'Oran en Algérie, où il fut assassiné devant sa chapelle le 1er août 1996. Nous commémorons donc cette année les 30 ans de sa mort et cette émission va lui rendre hommage en rappelant ce que furent la vie et l'œuvre de ce grand homme d'Église. Pour cette émission, je reçois deux invités qui connaissent bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le frère Gilles Danroc, membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs à Toulouse, et Patrick Vincienne, auteur de « Prier 15 jours » avec Pierre Claverie, paru aux éditions Nouvelle Cité. Bienvenue à tous les deux et merci d'être au rendez-vous.
Bonjour.
Frère Gilles, vous donnez lundi prochain, le 26 janvier à 20h30, au couvent des Dominicains à Rangueil, la conférence Pierre Claverie, 30 ans après son martyre, et c'est dans le cadre de l'année Pierre Claverie. Il se trouve que vous l'avez bien connu, et c'est même lui qui vous a ordonné prêtre, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Et c'était sa première ordination comme évêque d'Oran. Et j'ai pu préparer à Oran même, avec lui, cette ordination, en vivant une dizaine de jours avec lui dans un diocèse extrêmement complexe, extrêmement diversifié, avec des travailleurs venant du monde entier, des Philippins, des Polonais, pour le grand port d'Arzeux, juste à côté d'Oran, qui est le, je crois, deuxième port méthanier du monde. Et il était à la fois en train de préparer sa semaine sainte avec des travailleurs, on était en plusieurs langues, enfin c'était un monde extraordinaire. Et il était heureux au milieu de cette diversité. Alors là, en pleine forme, en pleine force, jeune évêque, donc voilà.
Lui-même avait été nommé évêque il y a peu, à l'époque.
Hein. Oui, c'est pour ça que je suis son premier ordonné.
Voilà, vous avez été vraiment le tout premier qu'il a ordonné prêtre.
Et en plus, je l'ai remplacé en 1996, l'année de son martyr, car il allait chaque année en Martinique pour prêcher à des sœurs de la Délivrante qui avaient des communautés au Liban et en Égypte, donc en contact avec le monde arabe ou arabophone. Et puis, il allait rencontrer sa sœur, qui était mariée à un Américain, qui est toujours vivante, et qui venait de New York, enfin des États-Unis, de la côte Est, en Martinique, pour le rencontrer. Et ça leur faisait un temps famille, vacances, prédication, puis qui le reposait de la sécheresse et des tensions, surtout, qu'il y avait en Algérie. Or, cette année 1996, il a voulu donner congé à son clergé qui était dans la tension de la guerre civile algérienne. Et donc, il a dit, tout l'été, partez et moi, je reste. Donc, il a dit aux sœurs de Martinique, mais j'ai mon premier ordonné qui est en Haïti à cette époque et il va me remplacer. Ce qui fait que j'arrive le 30 juillet en Martinique pour le remplacer. Et le 1er août, la retraite commençait. À 4 heures du matin, les sœurs, avec le décalage horaire, viennent me dire « Pierre Claverie vient d'être assassiné ». Moi, alors là, j'étais tellement bouleversé, j'ai réorganisé la retraite pour parler du martyr et du témoin.
Alors, on va évidemment revenir sur le parcours de Pierre Claverie, notamment son parcours spirituel au sein de l'Église. Il faut préciser, Patrick Vincienne, qu'il est né en Algérie, hein, en 1938, oui, à Bab El-Oued, et que toute sa vie, un lien très fort l'a uni à cette terre et à son peuple.
Oui, il y est né, et puis un jour il a fait une découverte, et il en a voulu à ses parents, qui ne lui avaient pas dit que les Algériens, c'était aussi son prochain. Et on a des lettres, c'était vraiment intense, et surtout que dans cette famille, il y avait un état d'esprit familial très très fort, donc il a été toujours soutenu, il y avait des lettres hebdomadaires qui se passaient les uns et les autres, voilà. Donc il a mis en cause ses parents, qu'il adorait au passage, donc il a commencé à prendre des décisions personnelles, il y en a eu plusieurs, qui s'enchaînent les unes les autres, dans une forme d'escalier au cours de sa vie, où à chaque fois c'est sinon une épreuve, en tout cas un but, à atteindre et les marches précédentes sont toujours préservées. C'est-à-dire qu'en découvrant que l'Algérien était aussi son prochain, il a décidé de crever ce qu'il appelait sa bulle coloniale. Aujourd'hui, on dirait les raisonnements en silo ou les réseaux. Et il a dit, je fais éclater cette bulle coloniale dans laquelle j'étais enfermé et je découvre d'autres personnes devant moi. Ça, c'était une première étape. Il y en a eu plusieurs autres.
Sa vie religieuse, à quel moment fait-il le choix d'entrer dans cette vie religieuse et qu'est-ce qui le pousse à cet engagement ?
Il y a le scoutisme, parce qu'il était scout comme beaucoup de jeunes et ça se trouvait très proche des Dominicains.
Le couvent des Dominicains d'Alger, en fait, oui, le groupe Saint-Do, je crois, c'était le groupe Saint-Do.
La Saint-Do, qui a une longue histoire et qui a poursuivi une histoire en France après. Mais en fait, il fait ses études à Grenoble, en 1957, et en 1958, il rentre au couvent de Lille. Or, cette année est aussi une bulle qui crève, c'est-à-dire qu'arrivé en France, des études d'ingénieur, qui ne le passionne pas d'ailleurs, mais il est plein de questions, et il est Algérie française, il se rend compte qu'en France, on a un autre regard sur l'Algérie, qu'il y a des tensions en France même, à propos de la colonie. Et il se rend compte, peu à peu, il entend parler de l'Algérie d'une autre manière que quand il était dans l'intérieur de sa bulle.
Oui, parce qu'il a grandi dans une famille pieds-noirs, mais depuis quatre générations, installé depuis quatre générations en Algérie.
Oui. Exactement.
Avec un discours qui est bien établi et qu'on ne saurait remettre en question, j'imagine.
Alors, il y a donc la contestation de cette bulle, mais aussi une exigence de vérité. On voit qu'il résume sa période jusqu'à ses 20 ans. Ses 20 ans, 19 ans en Algérie et un an à Grenoble, comme étudiant en sciences. Et donc, il va à Lille. Et là, il a encore la même tension, puisqu'il y a des frères qui disent...
Les
frères dominicains de noviciat. Ils ne sont pas d'accord à l'intérieur du noviciat sur l'attitude qui serait bonne. Donc, il est là... On pourrait ajouter à la crever la bulle, il y a un approfondissement, une recherche de la vérité qui le guidera toute sa vie.
Qui sera sa boussole.
C'est sa boussole. Enfin,
on peut aussi comprendre désormais une certaine radicalité de sa posture sur toutes les questions. Certains diraient il est excessif. Non, il va jusqu'au bout de ce que ça veut dire. Hein? Crever sa bulle, ça veut dire il affronte une réalité qu'il ne connaissait pas. Et ensuite, il décide quoi ? Il va de décision en décision. Il décide de vivre l'ouverture. Alors, ça paraît être un mot bizarre.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
En clair, il disait ouvrir son cœur, ouvrir sa porte. Et sa porte était effectivement toujours ouverte, la porte de son bureau. Parce qu'une porte qui n'est ouverte que quand passe quelqu'un, eh bien, un autre passe derrière et on ne le voit pas. Donc, une porte qui reste ouverte, c'est l'accueil de l'intrus, de passage, on ne sait pas. Donc, il est dans une sorte de radicalité dans ses postures et qu'il pratique toute sa vie.
Et c'est pendant qu'il est frère étudiant à Lille qu'il fait son service militaire en Algérie dans les années 62 de l'indépendance. Donc vous imaginez à quel point de tension, mais qui ne l'a pas annihilé, laissé sur place, ça l'a provoqué sans cesse à une recherche de la vérité ou de la radicalité, mais de la vérité, c'est pas la radicalité pour elle-même.
C'est ce que je viens de dire. Radicalité, ça veut dire à la racine aussi. Hein.
Oui.
Donc, je vais à la racine des problèmes.
À la racine, et justement, il est partagé entre la France et l'Algérie, entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre le monde chrétien et le monde musulman, parce que ces deux mondes sont à lui. Et il appelle ça les lignes de fracture de l'humanité. Donc il a un vocabulaire tellurique. Et c'est sur les lignes de fracture de l'humanité que se passent les changements du monde.
Mais on y reviendra peut-être, parce que c'est un des mots clés, peut-être... Ligne de fracture. Oui. De toute sa vie, parce que... À la fin de sa vie, il est lui-même victime de la fracture. Oui. Donc on va essayer de voir jusqu'où.
Question que je me posais aussi, avec sa famille, ça devait être compliqué aussi. Oui. Il ne devait pas être tout à fait sur les mêmes positions, il y avait une espèce de déchirure.
Eh bien, ils s'adoraient mutuellement. Les lettres
qu'ils
s'écrivaient...
L'amour était le plus fort malgré les désaccords qu'il pouvait y avoir sur le...
Donc c'était des lettres tournantes où il n'y avait pas Internet. Et ils s'adoraient, hein. Ils s'envoyaient des lettres qui tournaient. Et donc, ils échangeaient avec sa sœur Anne-Marie Gustafsson. Mmh. Et ses parents, c'était formidable. Et plus tard, il le reconnaîtra, puisqu'il a inventé une nouvelle béatitude. Il faut être gonflé quand même. La nouvelle béatitude, c'était la béatitude zéro, voilà, il l'appelait. Heureux ceux en qui on a cru. C'est-à-dire, il vivait de l'amour reçu. Donc, il était alimenté par cette béatitude qu'il a définie de cette façon.
Mais il a aussi des périodes d'apaisement et l'année de son ordination, donc en 65,
ouais.
Il dira qu'il a toujours vécu de ce moment de grâce et qu'il n'a jamais regretté d'une manière ou d'une autre, alors qu'il est en pleine tension, il a en même temps cette assurance dans la grâce, dans l'amour de Dieu, dans l'apaisement qu'apporte Jésus. Il y a quelque chose là aussi. On voit bien que sa recherche de la vérité a rencontré l'Évangile profondément. Et c'est ça qui lui a apporté une jovialité, apparemment, une détente. Moi, quand je l'ai rencontré, mais c'est un homme tout sourire qui rencontrait, on parlait toutes les langues.
Il n'était pas tourmenté, vous voulez dire.
Il est pathétique, on le verra peut-être, avant de partir, de repartir pour l'été 96, où il était au printemps ici, là, dans
France,
la région toulousaine.
Ouais.
Et il est reparti, on sent que dans sa dernière homélie à la troupe Saint-Do, qui était réunie au monastère de Prouille, on sent qu'il repart en sachant que, voilà, c'est le risque maximal. Il est pathétique, mais pas tourmenté. Il sait ce qu'il fait.
Parce qu'il est en paix avec lui-même, sans doute.
Voilà.
Et en accord avec lui-même.
Il est en accord avec lui-même, ça, je crois.
Oui, être en paix avec lui-même, je pense, ça fait penser à Christian de Chergé, qui avait dit « La vie, elle est déjà donnée ».
Oui.
Je pense qu'il était dans ce mode-là, puisque les moines de Tibirine, on a retrouvé leur tête, en tout cas, 2 mois avant cette homélie de Prouille, qui se trouve 15 jours avant l'attentat.
C'est ça.
Oui, Gilles Danroc me montre le livre Pierre Claverie, « Donner sa vie, 6 jours de retraite sur l'Eucharistie ».
Oui, c'est sa dernière retraite, publiée par les sœurs qui l'ont entendue. Et on voit bien ce thème de donner la vie. Mais on donne sa vie, non pas parce qu'on est tourmenté, mais parce qu'on est apaisé intérieurement. On a une paix intérieure qui permet de faire face à des choses très complexes, à des tensions dans tous les sens. Mais au cœur de ces tensions, il a trouvé la paix.
Donc, vous l'avez rappelé, hein, frère Gilles, il est ordonné prêtre en 1965, en France donc, l'Algérie est indépendante depuis 62, et en 67, il choisit de revenir en Algérie. Est-ce que c'était parce qu'il avait le mal du pays ou parce qu'il sentait que son destin était là-bas et qu'il devait se mettre au service de la population algérienne?
Je pense que c'est la deuxième hypothèse qui prime.
Oui, oui. Et c'est là, en fait, que les tensions du retour pendant le service militaire au moment de la nouvelle fracture qui est quand même l'indépendance de l'Algérie. Et c'est ce qu'il dira, comme vient de le dire Patrick, c'est ce qu'il dira à sa propre famille. Je ne savais pas qu'il y avait des Arabes musulmans. Je ne savais pas. Enfant, on se côtoyait, ils étaient au bout de la rue, on pouvait se voir. Mais se regarder, se reconnaître, ou toute cette attention à l'autre, eh bien, elle était dans la bulle, elle était dans la famille, une grande attention à l'autre, mais tout d'un coup, il faut que ça s'ouvre. Et là, il a une quête pour retrouver ce pays nouvellement indépendant. Il va être à Alger en plus, il va avoir un centre culturel à diriger, le centre des Glycines. Il a beaucoup à faire. Et il y a aussi, il faut le dire, Monseigneur Duval puis Monseigneur Tessier, qui sont de grands, grands archevêques d'Alger, qui ont favorisé finalement son retour l'un et l'autre et son travail, ce qu'il a pu faire à son retour en 1967.
Et en fait, il est nommé en 1973 par le cardinal Duval, directeur du centre des Glycines, donc c'est un institut d'études arabes et islamiques, qui était d'abord conçu pour les religieux, et puis qui va attirer de nombreux Algériens musulmans qui souhaitent mieux connaître leur culture et surtout apprendre l'arabe. Et lui-même a appris l'arabe, et c'était un très grand connaisseur de l'islam.
Absolument, et de l'arabe.
Mais vraiment un spécialiste.
C'est un linguiste, on peut dire, hein, de l'arabe. Et d'ailleurs, j'ai vu comment il parlait, comment il s'exprimait. Et d'ailleurs, ça faisait partie de sa prédication, tu vois, d'être attentif à la langue de l'autre, être attentif à cela. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on voit là déjà en germe ce qui va préparer la guerre civile des années 80, puisque c'est sous l'époque qu'on appelle Boumédienne que donc la direction de l'Algérie est reprise par le FLN militaire. Enfin, donc c'est toute cette...
Qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui.
Voilà. Et qui a voulu une sorte d'arabisation pour s'opposer à la France, se démarquer de la France, parce que toute la culture, l'université, l'école, étaient en français. Les livres, les maîtres, etc. Et donc, ils ont fait appel à ceux qui vont se révéler être les frères musulmans venant d'Égypte ou d'ailleurs pour être instituteurs, pour mettre au point l'arabe. Mais c'est pas le même arabe en plus. Entre il y a l'arabe littéraire, il y a des arabes dialectales, etc., voilà. etc. Les Aurès, c'est un autre. Enfin bref. Et donc l'arabisation voulue politiquement par le pouvoir algérien a entraîné une sorte de surenchère d'islamisation à l'intérieur même du pays. C'est-à-dire que l'islam était beaucoup plus calme d'une certaine manière et beaucoup plus unifié avant les années 70, où il est aux glycines. Et là, il apprend à des Algériens qui parlent arabe dans la rue, qui parlent arabe dans leur métier, dans leur famille. Mais pour l'enseigner, ils viennent apprendre au centre des glycines du frère dominicain. Il est connu comme directeur du centre des glycines.
Mais plus tard, on l'appellera l'évêque des musulmans, d'ailleurs. Tellement il connaissait bien l'islam, il parlait bien l'arabe.
Oui, il a une carrière niveau universitaire. Voilà.
Mais le geste n'est pas anodin, parce que, évidemment, beaucoup comprenaient le français, ça pourrait suffire.
Donc, absolument.
En fait, il se glisse.
Il va vers l'autre.
C'est un geste qui est parfaitement compris aujourd'hui encore, quand on s'efforce
à parler
la langue de l'autre, eh bien, c'est reconnu et c'est apaisant.
Tout à fait.
Vous avez évoqué le pouvoir algérien. Quelles ont été les relations qu'il a entretenues avec le pouvoir algérien de cette époque, et puis aussi avec la population?
C'est assez clair qu'un évêque, c'est un homme public, qui a une parole publique, alors que, simultanément, les moines de Tibérine, c'était des gens discrets et dans le silence. Donc, il a joué son rôle, il n'a pas hésité à parler franchement, il n'avait pas la langue ni la plume
dans sa poche,
et évidemment, ça ne lui a pas valu que des amitiés, mais il parle vrai. Donc, à un moment donné, il était repéré, et il se savait observé et suivi.
Oui, et il pouvait être, je crois, assez critique sur le dialogue interreligieux, parce que je crois qu'il reprochait à beaucoup de gens, que ce soit côté chrétien ou musulman, d'ailleurs, de plutôt se payer de mots que d'agir véritablement pour le dialogue entre les cultures et entre les religions.
Oui, je pense que lui, il était dans les actes, et il n'avait pas peur, il avait un lien écrit, régulier, et qui dénonçait les fautes
De part et d'autre,
voilà. Il avait pas sa langue dans sa poche, en fait. Il avait un parler vrai qui ne plaisait pas à tout le monde.
Oui.
Là, c'est une question qui va durer. On a bondi de fin des années 60 en 81.
Il est nommé évêque.
En 1980, il faut s'habituer à dire 1900. Il est nommé évêque d'Oran. Et là aussi, autant à Alger qu'à Oran, il a le double contact avec les élites, et en particulier, par ce passé aux glycines, les élites intellectuelles,
oui, intellectuelles.
Viennent à lui.
C'est un sachant, c'est un savant.
Mais il va jusqu'au bout, il est radical, comme il va jusqu'au bout pour comprendre ce qu'il n'a pas vraiment connu dans son enfance, c'est-à-dire ces Arabes musulmans, mais il n'y a pas que des Arabes, il y a des Berbères, enfin, c'est
il a voulu,
oui, il a voulu aller jusqu'au bout. Donc, il a toujours un écho populaire. Et on va le retrouver dans le dialogue avec son chauffeur, Mohamed, qui va être assassiné avec lui, en même temps que lui. Et il y a un dialogue populaire qu'il a toujours gardé au chaud. Enfin, il a toujours voulu ce dialogue profond. Il ne s'est pas contenté, comme la plupart, d'en rester avec les élites et en français, comme dit Patrick. Il a voulu aller au bout des choses.
Et en se confrontant aussi au peuple algérien, au petit peuple d'Algérie. Alors, on va parler après de la période de la guerre civile des années 90, mais avant de poursuivre, nous allons faire l'habituelle pause musicale de Vivante Église. Et en hommage à Pierre Claverie, au bienheureux Pierre Claverie, puisqu'il a été béatifié, nous allons écouter un extrait du Requiem de Forêt. C'est le Libérame, chanté par José Vandamme et le chœur Orfeon Donostiara, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Michel Plasson.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne. Je suis toujours avec le frère Gilles Danroc, dominicain de Toulouse, et Patrick Vincienne, auteur de « Prier 15 jours avec Pierre Claverie », livre paru aux éditions Nouvelle Cité. Patrick Vincienne, je le précise, vous êtes laïc dominicain vous-même. Nous allons poursuivre cette émission dédiée donc à Pierre Claverie, évêque d'Oran en Algérie, où il fut assassiné en 1996. Nous commémorons cette année les 30 ans de sa mort, mort que nous allons évoquer maintenant. Et pour ça, il faut d'abord revenir sur la guerre civile en Algérie. On en a déjà un petit peu parlé, mais donc elle se déclare durant la première moitié des années 90. En tout cas, elle va éclater véritablement en 1992. Que se passe-t-il à ce moment-là pour l'Église catholique algérienne et comment Pierre Claverie, Monseigneur Pierre Claverie, va-t-il s'y impliquer ?
Eh bien, je pense que déjà, il va mettre en œuvre une décision, une de plus, qu'il a prise. C'est d'offrir sa vie pour la rencontre et le dialogue. On pourrait dire, par simplification, on peut définir sa vie. Et alors, s'il y a un conflit de type guerrier, ça ne change pas le motif de son combat. Ça change le cadre. Mais il reste, exactement comme les moines de Tibérine, sont restés, même après que des gens amis les aient incités à partir. Voilà. Donc c'est clair, il n'a pas choisi le paysage, il reste dans le paysage tel qu'il est devenu.
Parce que lui, son combat, son œuvre, on peut peut-être dire plutôt son œuvre que son combat, mais qui se trouve être un combat, c'était le dialogue entre chrétiens et musulmans en Algérie.
Il disait lui-même, j'offre ma vie pour la rencontre et le dialogue. Maintenir le dialogue, c'est un peu un travail de diplomate. Quand rien ne va, tout le monde s'énerve, etc. Mais les diplomates continuent à parler. Voilà. Lui, il continue à discuter, à être dans le dialogue. Et il était très possible que ce ne soit pas partagé forcément par l'univers dominicain ou des conseillers d'ici ou de là. C'est sa décision.
Il est menacé personnellement,
Alors, il le dira à sa façon, une façon très courageuse. Il fait front, hein, c'est ce que vient de dire Patrick. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la fracture nord-sud de la Méditerranée devient une fracture interne de l'Algérie. C'est une nouvelle fracture, mais qui n'est plus du même type et qui opposait la culture, mettons, européenne, moderne, technique, de l'ancien ingénieur, enfin, en herbe.
Qu'il fut,
ou l'université. Même dans la connaissance de l'arabe et de la culture algérienne. Mais maintenant, la fracture est entre l'islam et l'islam, entre des Algériens et des Algériens. Ceux qui sont donc autour du pouvoir.
C'est une guerre civile.
Et ce n'est plus la guerre d'indépendance. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Et le prisme de la guerre d'indépendance reste toujours, y compris dans les événements très récents, le prisme numéro un, alors qu'il y en a un autre qui se glisse là-dedans. Et c'est là qu'il continue de se tenir sur les lignes de fracture, mais avec une fracture tout à fait nouvelle, qui est interne. C'est comme s'il y avait une fracture à l'intérieur du christianisme, ou à l'intérieur de la France ou de la culture, est-ce que l'IA contre je sais pas quoi, contre les manuscrits. Il se tient là et il découvre véritablement l'autodestruction de l'Algérie. C'est pour ça que sa parole sort aussi de ses tripes, de son engagement au nom de l'ensemble du peuple qui est tenu dans l'étau de la violence, par les deux extrêmes qui fomentent et entretiennent une guerre de 10 ans avec des milliers et des milliers de morts, il ne faut pas l'oublier. Des dizaines de milliers de morts. Et une violence dont on a pu, dans nos échanges, dans nos rencontres, voir à quel point elle était dans la vie quotidienne. Donc, ce qu'il dénonce, ce n'est pas l'un ou l'autre, le GIA ou le gouvernement, c'est l'état de violence dans lequel le peuple est pris en otage. Et c'est comme toujours dans les périodes très violentes ou de guerre civile, c'est deux minorités qui s'opposent par-dessus le peuple et tiennent le peuple en otage. Et par la terreur, par la violence physique, enfin la violence. Et c'est ça qu'il a dénoncé. Et du coup, il se met dans le collimateur des deux extrêmes.
Exactement.
Au point qu'on ne sait pas aujourd'hui, j'ai ma petite idée.
Oui, je pense qu'il y a des soupçons.
Sur
qui a perpétré l'attentat qui lui a coûté la vie.
Et pourtant, on ne peut pas non plus penser qu'il se préparait une belle sortie, puisque donner sa vie pour la rencontre et le dialogue, c'est pas disparaître. Et d'ailleurs, à un moment donné, il faisait un discours à des sœurs qui souhaitaient vivre le martyr. Et il s'est fâché. Il a dit, c'est pas possible. Alors, il leur a dit, le martyr qu'il faut vivre, c'est le martyr blanc. C'est-à-dire faire tous les jours ce qu'on a à faire et le mieux possible. Donc, il n'avait pas de visée.
Oui, il ne voulait pas, lui, aller au martyr.
Non, pas du tout. Mais c'était un devoir de chaque jour. Et pour tenir, il avait aussi une habitude. C'est comme Saint-Dominique, à l'époque lointaine, il commençait toujours sa journée à la chapelle.
Par la prière.
Exactement. Parce qu'on peut se demander comment on tient dans ces circonstances. Oui. Voilà.
Vous qui l'avez bien connu, frère Gilles, quelle était sa foi à Pierre Claverie ?
Elle était... Le premier qualificatif qui me vient, elle est vivante.
Oui.
C'est-à-dire que...
Elle est incarnée.
C'est ça. On la voyait sur son visage, on l'entendait dans sa parole, mais en même temps, ce n'était pas justement une foi qui sans cesse prend parti contre l'autre. Ou... Dans la fracture, on est dans une espérance. Malgré tous les enfermements, malgré toutes les violences, il est possible... que, j'allais dire, les deux bords de la blessure puissent se cicatriser un jour. C'est-à-dire, c'est un homme qui est espérant. Sa dernière homélie, dont j'ai le texte ici, dont les sœurs de Prouille ont encore la cassette, il faudrait la faire passer un jour à Radio Présence, ça serait un très beau témoignage. Mmh. Eh bien, il est dans l'espérance, il est dans l'avancée, comme disait Patrick. Il avance de conflit, de tension, de fracture en fracture. Et là, il se trouve à l'intérieur d'une fracture religieuse et politique. Et du coup, ça lui montre la vocation chrétienne comme justement une vocation de dialogue et de réconciliation au cœur de tous les conflits, en disant « la violence qui s'exerce, elle ne mène à rien ». Et ça, c'est ce dont nous sommes aussi porteurs, puisque notre Dieu a été crucifié. Et que donc l'espérance, c'est la résurrection à travers la crucifixion. Et là, au lieu effectivement de partir, comme on le lui conseillait, en disant « mais tu pourras continuer ta carrière d'élite, tu pourras être très utile,
ailleurs.
Tu pourras aller peut-être en... au Moyen-Orient, en Égypte, tu pourras continuer tout ce que tu,
bien sûr,
tout ce que tu, dont tu es porteur. Et là, il dit, et moi je pense que c'est pas le mot moi qui me touche le plus, c'est mais oui, mais quand tu es là et que ton ami est en train de mourir, tu ne peux pas partir parce qu'il faut lui remonter le drap et tenir la main.
Il peut pas l'abandonner.
Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi espérance qu'il manifestait. En voulant reconnaître en face des vérités qui ne sont pas forcément les siennes.
C'est ce que j'allais vous dire.
J'ai besoin de la vérité des autres. C'est-à-dire, tout seul, on n'a pas tout. On n'a pas toute la vision, on n'a pas toute la compréhension. C'est pour ça qu'il faut garder, il faut conserver le dialogue. Respecter les différences, pas les laminer.
Mais un dialogue en abordant aussi des sujets qui fâchent, entre
guillemets. Ah oui.
C'est-à-dire que l'espérance ne peut reposer que sur un discours de vérité. Et seulement sur un discours de vérité.
Absolument. C'est pour ça qu'il va faire une adresse à l'Église. Pourquoi tu te divises sur des choses qui ne peuvent pas, qui nous distraient, qui nous sortent de notre centre qui est de regarder la croix et d'espérer la résurrection pour nos proches, pour nos amis. Et ça, c'est la victoire de l'amour jusque dans la haine.
Alors, le 26 mai 1996, c'est l'assassinat des moines de Tibérine.
Mmh.
Et Pierre Claverie sait pour de bon vraiment qu'il est menacé aussi. Et je crois que c'est ce que va lui dire le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qu'il rencontre à ce moment-là. Je crois que c'était Hervé de Charette.
Oui.
Et il reste.
Alors, ça, c'est les circonstances immédiates de son assassinat. C'est-à-dire que Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères, vient accompagné d'ailleurs de magistrats pour essayer de déterminer les causes, l'enquête sur les moines de Tibérine. Donc il arrive à Alger, il ne peut arriver qu'à Alger, Pierre est à Oran, il ne peut pas prendre des routes à travers le pays qui sont trop dangereux, et donc il prend l'avion pour aller d'Oran à Alger. Au mois de juillet, il va être assassiné le 1er août.
Oui. Voilà.
Et c'est en revenant d'Alger que Mohamed l'attend.
Bouchiki,
son chauffeur et ami, donc qui a donné lieu à ce dialogue, parce qu'on a retrouvé dans la poche intérieure de la veste de Mohamed tous les dialogues qu'ils avaient eus au fur et à mesure des voyages qu'ils ont fait ensemble. Donc Mohamed était le chauffeur. Il se parlait beaucoup. Il est très affable, Pierre Claverie, c'est quelqu'un. Mmh. Voilà. Donc il doit revenir. Or, il se trouve que l'avion à Alger est retardé 1 heure, 2 heures. On envoie, effectivement, Mohamed va attendre à l'aéroport. Et c'est là que la pièce Pierre et Mohamed a été située. C'est au bord de l'aéroport.
Une pièce qui a été tirée, effectivement.
Voilà, de Adrien Candiard, mon frère dominicain, qui a été joué à Toulouse aussi.
On l'a fait jouer deux fois.
Et là, on attend. Et vraisemblablement, c'est l'hypothèse la plus sûre, c'est celle aussi de sa sœur, la sœur de Pierre Claverie. On attend pour que se mette en place la bombe dans le garage. C'est-à-dire qu'en entrant dans son garage, la bombe a explosé. Donc on voit bien que c'est du travail de dernière minute, où on le fait dans le garage. Voilà. Donc on se dit qu'il y a un lien entre le retard de l'avion et l'assassinat, proprement dit.
Qu'est-ce qu'on soupçonne d'ailleurs sur les auteurs de l'assassinat? On a des soupçons, parce que comme pour les moines de Tibérine, rien n'a jamais été établi formellement.
Exactement. Mais ça peut être effectivement, vraisemblablement, les services parallèles.
Ça a été dit.
Voilà. Et ça pourrait être, mais c'est plus compliqué à faire à Oran que même à Tibérine, ça pourrait être effectivement un commando du GIA. Mais cette deuxième hypothèse a du mal à tenir la route.
Mais on sait que dans le même temps, quand il y avait ces assassinats, la police qui était au courant ne se déplaçait pas.
Et parfois elle avait peur. Enfin, parfois elle était pour, parfois elle avait peur. Enfin, c'est une situation d'une violence extrême, hein, que ce soit Tibérine. Mais c'est une violence où s'entrechoque, les chrétiens sont dans la tenaille. Ils ne sont pas d'un côté ou de l'autre de la tenaille. Ils sont au milieu. Et c'est ça qui est difficile à définir, et son martyr est le signe de cela. C'est qu'il n'est ni de l'un ni de l'autre. Sinon, on aurait su que c'est l'opposant qui l'a fait.
C'est comme les moines de Tibérine. Ils s'en allaient pas parce que leur vie était déjà donnée. Ouais. Dans le film, les hommes et des dieux, on voit ça.
Et Pierre rentre d'Alger pour continuer à être au chevet de l'Algérie, hospitalisé dans sa guerre.
Donc Pierre Claverie a été reconnu martyr et béatifié en 2018. Oui. Son corps repose dans la chapelle de la cathédrale Sainte-Marie à Oran. Aujourd'hui, est-ce que le souvenir de Pierre Claverie est encore fort en Algérie? Est-ce qu'il demeure une personnalité, une figure auquel on se réfère toujours?
Je pense qu'il demeure toujours parce que le cardinal Jean-Paul Vesco, qui a pris sa suite, est vraiment dans la ligne.
Non, il s'est mis dans les pas, dans les pas de
certains dominicains.
Il le reconnaît, il poursuit le travail.
Oui. Et puis il était à Oran, maintenant il est à Alger, et cardinal, enfin bref, il a continué. Et effectivement, l'impossible cérémonie de béatification en Algérie, vous savez qu'il y a eu une tension pour le 8
décembre. Parce qu'il a été béatifié le 8 décembre 2018 à Oran.
2018 à Oran.
En présence des autorités musulmanes.
Avec 18 co-martyrs.
Voilà, c'est 18 compagnons de martyrs. Voilà. Oui, tout à fait.
Et donc, c'est l'Église en Algérie a vraiment payé, dans cette tenaille, elle a payé de multiples fois. Hein.
Mais on ajoute toujours, il y a eu aussi un millier de rabbins abattu, plus des dizaines de milliers de civils.
Et même d'imams. Oui. C'est-à-dire la guerre civile, elle a tué des deux côtés. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette cérémonie, présidée par le frère Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran en 2018, a été une cérémonie pacifiante pour toute l'Algérie. Donc, on a vu à la télévision, on a pu suivre pas à pas les éléments de cette béatification, de cette cérémonie. Et on voit que c'est un lieu de réconciliation, un lieu d'espérance possible qui est toujours vivant, dont on a peu idée dans notre connaissance actuelle de l'Algérie. On a peu idée qu'il y a des différences et... Là, il y a des sanctuaires, des cathédrales, des lieux de rencontre qui se continuent en dépit de tout. Et ça, c'est peut-être l'œuvre propre de Pierre Clavery. Mais Pierre Clavery nous demande, à l'Église et à chaque chrétien, à toutes les communautés, de nous tenir sur les lieux de fracture, de ne pas avoir peur. C'est notre vocation. Au lieu de prendre parti, nous sommes des ambassadeurs, comme dit saint Paul, de la réconciliation, au prix de notre vie, une vie donnée.
Il disait aussi à ce sujet, « Notre comportement fraternel reflète la présence et l'action de Dieu ici et maintenant, et cela change tout, car quelqu'un est là. »
Je pense que ça pourrait faire une belle conclusion à notre émission. Qu'est-ce que vous en pensez, ces belles paroles de Pierre Clavery?
Ah bah oui, c'est magnifique. Mais en même temps, moi je dirais aussi, quand il y a un drame, quand il y a des blessés, quand il y a des hospitalisés, et c'est pas seulement des personnes, mais c'est aussi des personnes, quand il y a des mondes de la pauvreté, les pays en guerre, l'Église se tient là, peut-être simplement pour remonter le drap et tenir la main.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission hommage au bienheureux Pierre Clavery. Je rappelle que le frère Gilles d'Enroc donne la conférence Pierre Clavery, 30 ans après son martyr, lundi 26 janvier à 20h30, salle du chapitre, au couvent des Dominicains à Rangueil. Et puis je rappelle le livre, bien sûr, de Patrick Vincienne, avec Pierre Clavery, avec Doran Martyr, Prier 15 jours, paru aux éditions Nouvelle Cité. Ce numéro était animé par Éric Dupri, il a été réalisé par Coraline Camebrac. Merci à tous de votre fidélité, à l'écoute de Vivante Église, à bientôt.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.